et du VIH, si vous voulez bien appuyer. VIH, on va faire un petit peu d'historique, on va commencer par l'historique, vous appuyez simplement sur le... Voilà. Pour vous dire que c'est un virus qui est a priori circule depuis des décennies et des décennies à la surface de la Terre. On pense que ce virus a commencé à circuler au début du siècle dernier. Donc, vous voyez, c'est, même si on l'a découvert, on a commencé à en parler dans les années 80, on sait très bien qu'au début du 20e siècle, il y avait probablement ce virus qui circulait, et notamment dans les régions d'Afrique centrale et de l'Ouest, où certains virus qui ressemblent au virus du VIH étaient portés par des singes, qui s'appelaient des trogloïdes, qui étaient contaminés avec des virus qui pouvaient ressembler un petit peu au VIH, c'était des rétrovirus, je vous dirai ce que c'est ultérieurement, et ces virus se transmettaient de singe à singe, mais également aussi de temps en temps de singe à homme. Tout simplement parce que vous savez très bien qu'en Afrique, une des nourritures principales dans certaines régions d'Afrique et qui existent encore aujourd'hui, c'est le singe, les gros singes de la région d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et les hommes, en tuant ces singes, écarissaient, c'est-à-dire retiraient la peau de ces animaux et se blessaient bien évidemment en retirant, en écarissant ces animaux. Donc il y avait transmission de temps en temps du virus du singe à l'homme et l'homme pouvait se contaminer. Puis les premiers cas réellement d'infection liés au VIH remontent aux années 60 où il y a eu des recherches a posteriori du virus sur des prélèvements de sang de personnes qui avaient été prélevées dans les années 60, et la première personne que l'on ait trouvée contaminée avec ce virus remonte aux années 59 en Afrique. Et puis, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, bien évidemment, puisque c'était il y a 30 ans, mais nous c'était notre tendre jeunesse pour certains. On nous a parlé en juin 81 d'infections particulières qui touchaient des sujets socialement particuliers à San Francisco dans les années 80, qui étaient des homosexuels, qui présentaient en juin, juillet, enfin pendant l'été 81, des maladies très particulières. Maladie très particulière qui était ce qu'on appelait des pneumocystoses, c'est-à-dire des infections pulmonaires avec des parasites que l'on avait l'habitude de voir que chez des sujets ayant une immunodépression profonde, c'est-à-dire des défenses immunitaires très abaissées, comme des patients par exemple qui avaient de la chimiothérapie pour des cancers. Et à San Francisco, il y a eu un certain nombre de cas de patients a priori qui n'avaient pas de cancer, pas de chimiothérapie, pas de pathologie sous-jacente, qui présentaient ces infections pulmonaires, et il fallait commander un produit particulier qui était à Atlanta. Atlanta, c'est un peu le centre névralgique aux États-Unis qui coordonne un peu la distribution de certains médicaments particuliers. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une demande importante d'un médicament qui s'appelait le pentacarinate à l'époque, peu importe, pour des patients à San Francisco. Donc il y a eu une alerte, la première alerte, en disant tiens, il se passe quelque chose à San Francisco, et il se passe quelque chose uniquement chez les homosexuels. Et puis très rapidement, on s'est aperçu également qu'il y avait une autre maladie qui s'appelait la maladie de Kaposi. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Vous avez entendu parler de cette maladie ? Bon, la maladie de Kaposi. Je vous montrerai des images. Si vous avez regardé des films comme Philadelphie, il y a quelques années, où on parlait des premiers cas de sida, il y avait un avocat qui mourait à la fois de pneumocystose, mais également de maladie de Kaposi. Je vous montrerai des photos. C'est des maladies qu'on voit qui touchent essentiellement la peau, mais également les muqueuses comme la bouche, le tube digestif, etc. Et ce sont des maladies qui sont liées à un virus qu'on avait l'habitude de voir uniquement en Afrique. Et là également, il y avait les premiers cas chez ces homosexuels qui étaient décrits en juin 81. Très rapidement, on s'est aperçu que, on parlait déjà, même 30 ans après la fin de la, ou 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on commençait à faire de la ségrégation à nouveau aux États-Unis chez ces homosexuels en disant c'est une maladie de l'homosexuel. Il faut les mettre de côté. Vous savez qu'à San Francisco, il y a une énorme population homosexuelle masculine et féminine qui vit dans cette ville. Mais très rapidement, on s'est aperçu que cette maladie était probablement liée à quelque chose qui ressemblait peut-être à un virus, parce que chez les patients qui avaient ce type de pathologie, on observait dans leur sang, lorsqu'on examinait leur sang, une baisse de certaines cellules, dont je vous reparlerai après, qui s'appellent les lymphocytes CD4, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je crois que c'est un peu au programme de terminal. Ces lymphocytes, ce sont des petites globules blancs, des petites cellules blanches, qui ont la propriété de défendre votre organisme contre plein d'infections. Et lorsque ces globules blancs, ces cellules blanches diminuent, vous avez un risque plus important de faire des infections, et particulièrement les infections liées au virus du sida, dont je vous montrerai des exemples bien évidemment tout à l'heure. Donc, très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une nouvelle maladie, une maladie qui faisait baisser l'immunité chez certains sujets qui étaient au début des homosexuels, donc probablement une transmission sexuelle à l'époque, logique, qui a été largement confirmée par la suite, et qui était liée probablement à un virus, mais on l'a trouvé que 2 ans plus tard, et qui faisait baisser cette immunité. Un an après, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une autre façon probablement d'attraper cette maladie un peu mystérieuse, puisqu'on a retrouvé les mêmes maladies dont je vous parlais chez des sujets un peu particuliers qui étaient les hémophiles. Vous savez, les hémophiles sont des hommes qui généralement ont un déficit dans certains facteurs de la coagulation et qui ont un sang qui se coagule très mal. Donc avec un risque de saignement très important, avec nécessité fréquemment de leur passer des culoglobulaires, des globules rouges, parce que ces personnes saignaient. Donc on s'est quand même aperçu que la maladie observée chez les homosexuels pouvait probablement également se transmettre par le sang. Ça a été largement confirmé la même année, puisqu'on a retrouvé la même chose chez les sujets toxicomanes. Vous savez que les toxicomanes s'échangeaient, et s'échangent toujours malheureusement aujourd'hui, des seringues, donc en s'injectant du sang. Il restait toujours des gouttes de sang au niveau de la seringue, on passait ça au voisin, qui s'injectait l'héroïne, mais également du sang infecté. C'est pour ça que tous les toxicomanes se sont, pour beaucoup en tout cas, infectés et par le VIH, et par l'hépatite C, et par l'hépatite B. Et puis, toujours la même année, on a élargi un petit peu les sujets qui étaient capables d'avoir cette infection, avec notamment des femmes. Donc on s'est aperçu qu'il y avait non plus une transmission sexuelle uniquement homosexuelle, mais probablement hétérosexuelle. Mais là également, il y avait une catégorisation de cette population, puisque c'était essentiellement observé initialement chez des patientes haïtiennes d'Haïti. Donc c'est pour ça que dans les années 80, on parlait des 3H qui étaient homosexuels, haïtiens et héroïnomanes. Bon, c'était une façon vraiment de catégoriser les gens qui pouvaient attraper cette espèce de maladie épouvantable. Et puis très rapidement, on s'est aperçu la même année, malheureusement, qu'il y avait des enfants qui pouvaient être infectés par cette maladie, avec toujours les mêmes déficits immunitaires, des enfants qui étaient nés généralement d'une maman qui avait l'infection. Et puis, vous voyez qu'on arrive quand même 2 ans après les premiers cas rapportés dans la littérature, et surtout, on en parlait énormément aux informations à cette époque, on a découvert que cette maladie était liée à un virus qui a porté 36 noms, jusqu'à ce qu'on arrive au nom définitif, qui était le VIH, pour virus de l'immunodéficience humaine. C'est-à-dire que c'est un virus qui a une particularité d'être un rétrovirus, je vous en parlerai après, qui pénètre dans l'organisme par les différents modes dont je vous ai parlé, sexuels, par le sang, on verra ça après, ou par transmission d'une maman infectée à un bébé ou à la naissance, et qui a la possibilité de faire baisser les globules blancs dont je vous ai parlé, les CD4, qui va entraîner une baisse de l'immunité, donc à plus grand risque d'infection, avec des tas d'exemples que je vais vous donner après. Et puis 2 ans après, on s'est aperçu qu'il y avait non pas un virus, mais il y en avait un deuxième, qui s'appelait le VIH2, qui lui est un peu plus souvent retrouvé en Afrique que dans le reste des autres pays à la surface de la Terre. Actuellement, il y a des virus qui sont des patients infectés dans tous les pays du monde. Ça s'appelle une pandémie, à la surface de la Terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, probablement les premiers cas sont partis d'Afrique de l'Ouest. Des personnes se sont infectées avec des singes, il y a eu des contaminations probablement hétérosexuelles entre des personnes qui habitaient en Afrique de l'Ouest, et puis on a construit des moyens de communication relativement importants dans ces régions, qui ont permis aux camions de passer, on a construit des routes, etc. Donc les personnes allaient de village en village, ont permis ainsi à ce virus d'être véhiculé dans différents autres villages, puis d'arriver à la ville, etc., de se répandre à la surface de la Terre par les différents moyens dont je vous ai parlé. C'était une maladie dans les années 80 qui était, et qui est toujours, épouvantable, puisque les premières personnes qui étaient infectées et décrites dans les années 80 à 85 mouraient systématiquement en quelques mois avec des maladies gravissimes, qui, comme la pneumocystose, le kaposi, etc., les tuberculoses, sans que l'on puisse les traiter. On n'avait absolument pas de traitement contre ce virus. Ce n'est qu'en 88, peut-être que vous en avez entendu parler, que la première molécule efficace sur ce type de virus a été étudiée, c'était l'AZT, l'azido-thymidine, qui est une molécule qui est issue du sperme de saumon. Je vous montrerai, pour ceux qui sont intéressés tout à l'heure, la façon dont ça bloque le virus. C'était une vieille molécule qui était connue, qui a été essayée en laboratoire, bien évidemment, sur ce virus. Ça bloquait sa multiplication et, secondairement, il y a eu les premières études chez l'homme. Et c'est encore aujourd'hui une molécule que l'on utilise régulièrement chez les patients infectés. En 92, on a un petit peu évolué, on s'est aperçu, et c'est la première fois que l'on faisait ça pour des virus, que l'association non pas d'un médicament, mais de deux médicaments permettait d'améliorer les patients, même si au bout de quelques mois, la plupart des patients échappaient au traitement et avaient des pathologies graves. Et puis, il y a eu un tournant phénoménal et très important, non seulement pour le domaine du VIH et du SIDA, mais également pour l'ensemble des virus que l'on connaît et que l'on étudie actuellement. Il y a eu un essai des premières, ce qu'on appelle les trithérapies, ça je suis certain que vous en avez entendu parler. Ce sont des associations tri de trois médicaments, de trois molécules qui étaient efficaces et qui sont efficaces sur le virus du VIH. Et ça a radicalement transformé et la prise en charge des patients et leur survie. Je vous montrerai des courbes de statistiques après. Aujourd'hui, être infecté, on a des tas de molécules, on a une trentaine de molécules différentes pour traiter les patients. Être infecté par le virus du VIH, c'est vivre normalement, c'est aimer normalement, c'est travailler normalement, c'est aller en vacances normalement, c'est exactement comme n'importe quelle pathologie chronique. Que ce soit l'hypertension, diabète ou tout ce que vous voulez, vous avez peut-être des parents ou des gens autour de vous qui ont une maladie chronique, qui prennent tous les jours des médicaments. S'ils oublient leurs médicaments, cette maladie se réveille ou se devient un peu plus grave. Bien, c'est la même chose pour les patients infectés par le VIH. On arrive aujourd'hui non pas à guérir les patients, mais à les traiter et d'empêcher ainsi à ces patients de devenir malades ou de transmettre plus facilement leur virus. Et puis, 30 ans après la découverte de ce virus en 2008, vous savez que les Français, au moins Barécine aussi, a eu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la découverte du virus du VIH1 en 83 et du VIH2, elle a participé aux deux, en tout cas en 85. Actuellement, le virus du SIDA, du VIH qui donne le SIDA, est un virus qui est, comme je vous l'ai dit, réparti à la surface de la Terre. Dans tous les pays, il n'y a pas un seul pays qui n'ait pas rapporté des cas d'infection avec ce virus. Et depuis que l'on connaît ce virus, depuis que l'on a identifié ce virus dans les années 80, vous voyez qu'il y a eu environ 60 millions de sujets, c'est-à-dire en gros, schématiquement, la population de la France qui a été infectée avec ce virus. Ça fait quand même pas mal de personnes. Sur ces 60 millions de personnes infectées depuis les années 80, vous en avez une vingtaine de millions qui, malheureusement, sont décédées, essentiellement au début, lorsque l'on n'avait pas toutes les connaissances que l'on a actuellement sur ce virus. Et à la surface de la Terre actuellement, environ 35 millions de sujets sont porteurs du virus, donc sont vivants, sont porteurs du virus à la surface de la Terre, avec essentiellement, comme vous le savez, une prédominance de ces personnes infectées en Afrique du Sud, enfin en subsaharienne, en dessous de la partie inférieure de l'Afrique. Vous avez des millions et des millions de sujets infectés qui n'ont malheureusement pas toujours accès aux soins aussi facilement que ce que l'on peut avoir en tout cas en France ou dans les pays un peu plus de développé, si je puis me permettre. Avec aussi actuellement une zone qui est très importante de contamination, c'est l'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire du tourisme sexuel en Asie du Sud-Est et qui reviennent infectées en France avec les personnes qui sont là-bas. Et la Russie ayant ouvert un peu ses portes un peu plus à l'Europe depuis une quinzaine d'années, on voit le nombre de cas de personnes infectées dans cette région. C'est bon ? Juste quelques diapos, juste pour vous donner des chiffres marquants, éventuellement à retenir. Comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 35-36 millions de personnes qui vivent à la surface de la Terre en ayant cette infection. Et je crois qu'il est important de noter qu'il y a quand même la moitié des personnes sont des femmes, ce qui est fondamental, et qu'il ne faut pas oublier que 2 millions d'enfants de moins de 15 ans sont actuellement infectés par ce virus. Ces enfants, il y en a certes en France, hein, nés de mamans infectées, ou des, plus maintenant, des enfants qui ont été infectés par les transfusions, ça se voyait dans les années 80, mais plus aujourd'hui. Mais par mamans infectées, on en voit encore en France, mais surtout des enfants qui sont nés de mamans infectées en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Vous imaginez que l'accès aux soins de ces enfants n'est pas aussi simple qu'à Lille, par exemple. Diapo suivante. En ce qui concerne le nombre de patients nouvellement infectés, c'est des données qui vous paraissent peut-être un peu vieilles, hein, c'est 2009, mais on n'a pas encore les données de 2010. Vous savez, pour recueillir toutes les données épidémiologiques à la surface de la Terre, il faut toujours quelques mois de retard. Là également, en ce qui concerne le nombre de nouvelles personnes infectées à la surface de la Terre en 2009, vous voyez qu'il y a près de 3 millions de personnes, quand même, à la surface de la Terre, qui se sont infectées il y a 2 ans, avec, toujours important de noter, près de 400 000 enfants ont été infectés en 2009 à la surface de la Terre. 400 000, c'est énorme. Diapo suivante. On estime d'autres chiffres un peu choc, d'autres valeurs un peu choc, que chaque jour, 7500 personnes sont infectées à la surface de la Terre, nouvellement, chaque jour. Et là également, vous voyez que c'est près de 100%, ou près de 95%, supérieur à 96%, rapporté dans des pays pauvres, donc c'est surtout l'Afrique du Sud, hein, subsaharienne, mais également l'Asie du Sud-Est, et que sur ces 7500 personnes infectées quotidiennement, il y a quand même 1000 enfants qui sont infectés nouvellement chaque jour. Donc sur ces 1000 cas, il y a certes les enfants qui naissent de moments infectés, mais également tous ces enfants qui sont prostitués à l'âge de 12, 13, 14 ans dans des pays pauvres. Hein, chose que l'on ne connaît fort heureusement pas en France, en tout cas j'espère. Diapo suivante. Et sur les patients décédés donc de la maladie qui est entraînée par l'infection par le VIH, vous voyez qu'en gros, chaque année, il y a 2 millions de sujets qui meurent à la surface de la Terre. C'est à peu près le double de ce qu'il y a pour tout ce qui est paludisme. Il y a envie de la rougeole, ça tue énormément également en Afrique. Et la diarrhée qui tue 1 million à 1 500 000 enfants chaque année en Afrique. Mais vous voyez qu'il y a 2 millions de personnes qui meurent à cause de ce virus par manque d'accès aux soins à la surface de la Terre. Diapo suivante. Là également, c'est juste, après on va arrêter sur les statistiques, juste pour vous montrer que entre les années 50 et aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance dans les pays comme en France a gagné quasiment 12 ans. On avait une espérance de vie de l'ordre de 68 ans à la naissance dans les années 50. Aujourd'hui, on est à 80 ans. Cette espérance de vie a quasiment augmenté dans la plupart des régions du monde, sauf en Afrique subsaharienne. Vous voyez qu'au moment où on a découvert le VIH dans les années 80, au moment où ce virus s'est répandu dans ces pays, vous avez eu une courbe de la survie qui s'est complètement cassée, avec là, cette fois-ci, perte d'une dizaine d'années d'espérance de vie à la naissance. Donc rien que le virus ravage énormément dans ces pays la vie. Diapo suivante. En France, ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, même si c'est très important de se rappeler ce qui se passe dans le reste du monde, on a environ 120 à 130 000 personnes qui vivent actuellement infectées par le virus du VIH, ce qui est quand même assez conséquent. Ça nécessite des soins, des structures, des traitements. Qu'actuellement, en 2008, on n'a eu que 400 décès, on va dire, de patients liés à cette infection par le virus du VIH. Il y a 20 ans, c'était des milliers de personnes qui mouraient en France de ce virus. Donc, vous voyez quand même qu'on a évolué en termes de traitement. Fondamental, je ne vous ai pas mis les diapos de 2009, mais c'est la même chose, de vous rappeler qu'il y a environ 6500 personnes en France chaque année chez qui l'on découvre l'infection par le VIH. Ça ne veut pas dire que ces personnes se sont infectées chaque année, mais qu'on leur découvre. Donc ça, en gros, ça équivaut à ça. La plupart, je vais vous mettre les statistiques après, les schémas, proviennent soit de patients homosexuels, soit de patients hétérosexuels qui souvent viennent, même si cela tend à s'inverser, de pays où la prévalence de l'infection est importante, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'infections. En termes de nombre de découvertes de cas par million d'habitants chaque année, vous voyez que, en gros, c'est de l'ordre de 17 personnes, si on schématise en France, 17-18 personnes par million d'habitants ont une sérologie VIH chez qui on est découverte chaque année. Les régions les plus importantes, c'est la région parisienne, hein, où on a 265 personnes par million d'habitants chez qui on découvre cette sérologie. C'est important, ça fait de l'ordre de 0,2 pour 1000 si ou 0,3 pour 1000 si je ne m'abuse. Et il y a des pays comme la Guyane, vous voyez, où il y a près de 11 personnes sur 1000 chez qui on découvre chaque année une infection par le VIH. Donc ce sont des données très importantes. On se contamine encore en France, malheureusement, en dépit de toutes les campagnes de prévention que l'on peut faire et que l'on peut entendre régulièrement. Diapositive suivante. Selon le mode de contamination, vous voyez que globalement, je vous ai dit que on pouvait se transmettre le virus soit par voie sexuelle, soit par voie sanguine essentiellement. Vous voyez que essentiellement en France actuellement, c'est le mode sexuel qui prédomine en termes de transmission du virus. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour les toxicomanes, pour qu'il n'y ait plus d'échange de seringues. Il y a des endroits où vous pouvez récupérer des seringues qui sont tout à fait à usage unique. Je ne sais pas s'il y a ça à Lille ou dans la région, mais en tout cas à Paris, il y en a pas mal des box. Moi, je pense que c'est assez répandu en France. Et vous voyez que essentiellement, ce sont les sujets hétérosexuels qui sont chez qui on découvre une sérologie VIH. C'est-à-dire, les sujets hétérosexuels, ça peut être n'importe lequel d'entre vous si vous ne faites pas attention. Mais également des sujets homosexuels, pourquoi pas aussi éventuellement vous. Diapo suivante. Lorsque l'on sépare un petit peu ces différentes données, vous pouvez voir que les principales découvertes de sérologie VIH, c'est des sujets en France, concernent les sujets homosexuels. Il y a environ 2500 personnes homosexuelles chaque année chez qui l'on va découvrir une infection VIH. Les homosexuels vivent dans un milieu relativement protégé, savent qu'ils ont plein d'amis qui sont infectés, mais malheureusement, avec les campagnes qui sont faites, certaines personnes se contaminent encore régulièrement, de façon plus ou moins volontaire pour certaines. Alors, en se disant, c'est pas grave, aujourd'hui, si je me contamine, il y aura un traitement derrière qui me permettra de vivre normalement. C'est une façon qui peut être un peu réductible de la façon de voir les choses. En seconde position, et ça on le voyait beaucoup plus il y a une dizaine d'années, vous avez les femmes hétérosexuelles qui, chez qui on découvre une infection VIH, qui viennent d'un pays où il y a une forte incidence. C'est généralement des personnes africaines qui viennent en France, soit parce qu'elles se savent infectées par le VIH, soit elles ne savent pas, elles viennent travailler en France, et on va leur faire une sérologie, on va leur découvrir qu'elles ont une infection. On marquait quand même qu'entre 2003 et 2008-2009-2010, il y a une nette diminution du nombre de cas chez ce type de personnes, parce qu'il y a une réduction, l'entrée en France a été un peu plus compliquée, comme vous le savez très bien, et donc on n'accepte pas forcément toutes ces personnes facilement en France, même si on a de quoi les traiter. Nous sommes un pays riche, je vous le rappelle. Après, vous avez les hommes hétérosexuels français. Alors ça, c'est les personnes qui ne font pas attention, qui vont se contaminer dans des pays avec du tourisme sexuel. Ça, on le voit malheureusement régulièrement, et surtout comme par hasard au mois de septembre-octobre, après avoir passé des vacances juillet-août à l'étranger, et un peu moins donc d'hétérosexuels étrangers. Vous voyez que les personnes qui utilisent des drogues par voie intraveineuse sont quasiment minoritaires en termes de contamination aujourd'hui. Il y a eu un gros travail qui a été fait chez ces personnes, avec peut-être aussi un nombre réduit de personnes qui utilisent des drogues par voie intraveineuse aujourd'hui. Diapo suivante. Les modes de transmission, si on résume, vous avez la voie sexuelle qui est largement prédominante, que ce soit homo ou hétérosexuel, d'où l'importance de systématiquement se protéger avec des préservatifs pour tout acte sexuel. Je vous rappelle, j'en profite également pour rappeler que les fellations sont associées aujourd'hui à une épidémie de syphilis en France. Depuis quelques années, on a vu une épidémie de syphilis qui augmente parce que les sujets pensent que la fellation n'est pas un acte sexuel et donc il n'y a pas besoin de mettre un préservatif. Mais c'est une très belle façon de transmettre d'autres maladies sexuellement transmissibles que le VIH. Le VIH, ça ne se fait pas par fellation, mais il y a beaucoup d'autres maladies sexuellement transmissibles. qu'il y a des épidémies de gonocoques actuellement en France, très importantes, qui se transmettent aussi par fellation sans préservatif, donc préservatif pour tout acte sexuel. Voie sanguine, je vous ai parlé des injections de drogue chez des sujets, héroïnomanes essentiellement. Les hémophiles et les transfusés, aujourd'hui, on n'en voit plus en France, fort heureusement, parce que vous savez qu'il y a eu tout ce problème avec le sang contaminé il y a quelques années. Toutes les molécules que l'on peut passer par transfusion sont surveillées, sont décontaminées. Systématiquement, il y a des sérologies qui sont faites chez les donneurs de sang, mais également ces sérologies sont recherchées sur les culots globulaires ou d'autres produits dérivés du sang à transfuser chez des patients infectés. Donc, et puis il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour les hémophiles où il y a moins besoin de les transfuser actuellement. Les professions de santé sont assez exposées, ça s'appelle les AES, accidents d'exposition au sang. Dans tous les hôpitaux, on a traité des patients infectés par le VIH, et il arrive très fréquemment qu'une infirmière, qu'un médecin, qu'un chirurgien se blesse avec ses patients, qu'il y ait un contact du sang du patient avec le médecin ou l'infirmière, ça s'appelle des accidents d'exposition au sang, et dans ce cas-là, on est amené à leur donner un traitement prophylactique, c'est-à-dire qui prévient l'infection pendant un mois. Quand vous faites plusieurs fois, vous prenez plusieurs mois dans votre vie, et on surveille au bout d'un mois si vous n'êtes pas infecté par le virus avec lequel vous êtes piqué. Bon, généralement, les traitements sont très efficaces et ce type de transmission est assez limité, même si ça a été décrit jusqu'à présent. Généralement, il faut soit se blesser avec un bistouri, en opérant vous donnez un bon coup de bistouri sur les doigts, ou alors avec des aiguilles creuses. C'est des aiguilles, ce qu'on appelle des aiguilles pleines, c'est des aiguilles qui servent à recoudre, c'est exactement comme des aiguilles de couture, mais on recoud la peau, on recoud le tube digestif, on recoud ce que vous voulez avec. On se blesse, on peut rarement transmettre le virus avec ce type d'aiguille. Lorsque vous avez des aiguilles dites creuses, c'est des aiguilles pour injecter. Si on a aspiré un peu de sang du patient et qu'on s'injecte du sang dans le doigt, par exemple, il y a un plus grand risque de transmission de l'ordre de 0,3% sans traitement. On parle également d'AES pour accident d'exposition, cette fois-ci sexuel, pour la transmission par voie sexuelle, et on voit dans tous les hôpitaux énormément de personnes qui viennent nous voir en disant j'ai eu un rapport non protégé avec une personne que je connais pas ou que je connais mal il y a X heures, je ne sais pas si cette personne est infectée par le VIH ou pas, je souhaiterais avoir un traitement antirétroviral. Alors, il y a toujours des enquêtes. Si on arrive à voir les prélèvements de la personne source, on ne traite pas si celle-là, bien sûr, est négative pour le VIH. Mais le plus souvent, la personne source est inconnue. C'est un rapport d'une soirée, comme ça, dans un état d'ébriété, parce qu'on a voulu faire la fête, parce qu'on était très attiré par une personne. Et ces personnes se retrouvent très inquiètes le lendemain à vouloir absolument avoir un traitement antirétroviral pendant un mois. Ça coûte de l'ordre de 1200-1300 euros pour un mois de traitement sans vous parler des différents prélèvements sanguins qui coûtent relativement cher également. Et puis la dernière façon de transmettre le virus, le VIH, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se voit encore énormément dans des pays sous-développés, même si j'ai horreur de ce terme, c'est pas des pays vraiment sous-développés, mais qui vont se développer, on va dire, ultérieurement, que sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Vous pouvez avoir une transmission du virus de la maman qui est infectée, qui se sait infectée ou qui ne sait pas qu'elle est infectée, au bébé. Alors généralement, le moment le plus propice à la transmission du virus, c'est au moment de l'accouchement. Vous savez qu'à l'accouchement, il y a toujours à la fois un mélange du sang de la maman. Le bébé, quand il est dans le ventre de la maman, il n'y a pas d'échange de sang, il n'est pas en contact avec le sang de la maman, il y a le placenta qui le protège. Mais à la naissance, il y a toujours des saignements de la maman au niveau utérin et du bébé au niveau du cordon ombilical, et il risque toujours d'y avoir une transmission virale à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle les mamans qui sont infectées, on peut très bien faire des bébés aujourd'hui qu'on est infecté par le virus, il faut que la maman soit traitée, et on traite systématiquement le bébé à la naissance pendant un mois également, initialement par des perfusions, puis après par des sirops. Et le risque de transmission de ce virus aujourd'hui est relativement modéré, en tout cas dans des pays comme la France. Et un grand facteur de transmission du virus, un peu comme le virus de l'hépatite B, c'est l'allaitement. Dans des pays où malheureusement les femmes n'ont pas accès au lait en poudre avec les biberons, elles allaitent leur enfant et c'est une façon aisée de transmettre le virus au bébé qui a un tube digestif. Le virus, on ne l'attrape pas. Si on boit ou on mange du virus, on n'est pas contaminé. Sauf que le bébé a quand même une muqueuse au niveau de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac qui est très fragile et qui permet au virus de passer un peu plus facilement. Bon. Je vous parlais un peu du virus. Ça vous intéresse? Vous avez vu ça, ce virus, ou pas, en cours? Ouais, non? Bon, juste. Non? Bon, juste pour rappeler ce que c'est un virus. Vous savez qu'un virus, c'est un microbe, c'est un agent infectieux qui a la capacité d'infecter tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, mais qui ne vit que parce que ces différentes structures vivantes existent. Les virus, vous connaissez plein de virus hein, qui sont responsables de pathologies au quotidien très fréquentes. Là, on a une épidémie de rougeole en France. La grippe, c'est un virus. L'hépatite B, l'hépatite C, tout ça, ce sont des virus. L'herpès, c'est un virus. Mais le VIH aussi est un virus. Il a plusieurs propriétés sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre, mais notamment celle d'avoir du matériel génétique en son centre, qui s'appelle de l'ARN. L'ARN, vous savez, c'est une espèce de matériel génétique qui, lorsqu'il est traduit, permet de fabriquer les différentes substances nécessaires à la fabrication, par exemple, d'une cellule, une cellule comme le virus hein, aussi. Je pense que vous avez vu ça. Et généralement, l'ARN provient de la lecture d'un truc qui s'appelle l'ADN. Vous avez entendu parler de l'ADN? C'est tout matériel génétique, tous les chromosomes, c'est de l'ADN. Hein, c'est fabriqué avec de l'ADN. Il suffit de lire tout ça, de traduire tout ça. Vous avez votre morceau d'ARN qui va être après complètement relu et qui permettra de fabriquer, c'est un peu le plan, si vous voulez, de n'importe quelle cellule ou n'importe quel virus. Donc ça, ce virus a la propriété, c'est un des rares virus, il n'y en a que 5 comme ça, d'avoir de l'ARN qui est un peu particulier, dont je vous reparlerai après. C'est entouré tout ça d'une, ce qu'on appelle une capside. Et tout autour du virus, il y a une membrane. Il est protégé avec une membrane qui n'y est ni plus ni moins, enfin qui ressemble aux membranes qu'il y a autour des cellules. Hein, vous avez vu ce que c'est qu'une cellule, vous avez une membrane autour, il y a différentes substances qui constituent cette membrane, des protéines, du sucre, des lipides, etc. Et bien ça y ressemble. Et puis à la surface de cette membrane, ça c'est très important, il y a ce qu'on appelle des glycoprotéines, peu importe, ce sont des espèces de clés que l'on trouve sur tous les virus, qui leur permettent, lorsqu'elles rentrent dans un récepteur à la surface d'une cellule, de pouvoir se fixer sur cette cellule, de pouvoir rentrer à l'intérieur de la cellule. Hein, donc le récepteur, c'est comme si vous aviez une serrure, et cette glycoprotéine, c'est la clé. Ça sert simplement à rentrer à l'intérieur de ces cellules. Et ces espèces de clés à la surface du virus ont la capacité, la propriété de ne reconnaître et de ne... enfin, essentiellement, que les serrures qui sont à la surface des lymphocytes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les lymphocytes CD4. Ça peut infecter des tas de cellules, mais surtout ça va infecter ces cellules qui défendent votre organisme contre des infections. Donc vous imaginez, diapo suivante, que si vous détruisez ces cellules, vous allez avoir au cours du temps, je vais vous montrer les exemples après, une diminution de ces lymphocytes CD4, et donc à un moment ou à un autre, vous serez beaucoup plus sujet que des sujets non infectés par ce virus à faire des infections ou certains types de cancers qui sont généralement induits par d'autres virus. Ça, je vais peut-être vous passer le cycle viral. C'est juste pour vous montrer, vous voyez, le virus là, il est là, il va se fixer, ici c'est la serrure, hein, c'est les récepteurs CD4 à la surface de la cellule, il y a la clé qui rentre dedans, et ça va tout simplement permettre à tout le matériel contenu à l'intérieur du virus d'être relargué à l'intérieur de la cellule. Et puis une fois qu'il est dans la cellule, il va y avoir une mise en action d'un certain nombre de machineries qui va permettre au virus de copier des dizaines, des centaines, des milliers de fois son matériel génétique pour fabriquer des milliers de virus à l'intérieur d'une cellule. Et puis lorsqu'il va ressortir, il va casser la cellule et il va pouvoir aller contaminer d'autres cellules. Ça se voit pour tous les virus, hein. Vous avez ça pour le virus de la grippe, pour le virus de l'hépatite, etc. Ça, c'est poussant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites infecter avec un virus, quel que soit le mode de contamination. vous allez avoir dans un premier temps une montée très importante du nombre de virus dans le sang. On va dire dans le sang. Ça s'appelle ce qu'on appelle la charge virale. Hein, on quantifie le nombre de virus VIH qu'il y a dans le sang. Et plus il y a de virus dans le sang, plus, bien évidemment, ces virus vont aller se fixer sur ces petites globules blancs, les lymphocytes CD4, et les détruire. Et donc, plus il y a de virus, plus moins vous allez avoir de CD4. Et puis, au cours du temps, au cours des mois, des années, progressivement, si l'on ne vous traite pas, bien évidemment, vous allez avoir une diminution du nombre de ces lymphocytes dits CD4, les T4 comme on disait il y a 20 ans, jusqu'à ce que ces lymphocytes, normalement, quelqu'un qui n'est pas infecté, on a entre 800 et 1200. Et bien progressivement avec le virus du VIH, si vous ne traitez pas, vous allez vous retrouver à 0 T4 au bout de quelques années, si vous n'êtes pas mort avant. Diapo suivante. Et lorsque vous observez la diminution de ces lymphocytes, de ces globules blancs qui protègent votre organisme contre les infections, eh bien, à chaque fois que vous baissez, vous avez un risque non négligeable, lorsqu'il est en dessous d'une certaine valeur seuil, aux alentours des 200, de faire un certain nombre de maladies. Je vais vous montrer des diapositives de ces différentes maladies. On peut faire du candidat, du zona, kaposi, etc. En diapo suivante, je vous montre des exemples. Ça, vous connaissez, c'est une gorge. Ça, c'est une des infections les plus fréquemment observées chez les patients infectés par le VIH, mais qu'on voit également chez des sujets qui ont de la chimiothérapie pour les cancers. Ça s'appelle une candidose buccale. Les jeunes femmes connaissent très bien les candidoses pour celles qui sont sujettes aux antibiotiques avec des candidoses vaginales. Ça n'a rien à voir avec l'immunodépression. Mais là, chez les patients qui ont une immunodépression induite par le VIH, on voit fréquemment ce type d'infection. Vous voyez, ça, c'est la luette ici, là. Vous voyez, la luette, le petit machin au fond de la gorge. Là, c'est la langue. Et là, ces machins blancs, c'est des champignons. Et ils collent bien au fond de la gorge. Et ça, quand chez tout sujet, il y a énormément de signes cliniques et biologiques qui peuvent vous alerter pour rechercher une infection VIH chez des sujets infectés. Mais ça, typiquement, lorsque vous avez un patient qui vient vous voir avec ça, il faut absolument lui demander une sérologie du VIH. Parce que, à coup sûr, enfin, ou fréquemment en tout cas, vous allez retrouver une infection en VIH. C'est un grand mode de révélation du VIH. On augmente dans le côté gore? Oui. Suivante. Ça, vous connaissez, ça s'appelle le zona, c'est marqué en haut à droite, vous savez pas lire? C'est le zona. Le zona, vous savez, c'est un virus qui s'appelle le varicelle zonavirus. Vous avez tous fait la varicelle a priori, c'est une maladie de la petite ou de la moyenne enfance. Il y a certaines personnes qui l'ont bien plus tard. Les adultes, lorsqu'on l'a, c'est pas une bonne chose que de l'avoir parce qu'il y a un risque d'atteinte respiratoire important. Moi, j'en vois assez fréquemment chez les adultes et généralement ça se termine par un séjour en réanimation, enfin dans le pire des cas. Et ce virus, lorsque vous avez fait votre varicelle, va s'endormir dans vous. Et puis, lorsque vous avez à tout moment de votre vie, vous pouvez avoir des petits moments de fatigue, d'immunodépression, etc., ce virus peut se réactiver, se réveiller et donner cette maladie qui s'appelle le zona. Alors, sur une partie du corps, ça suit des nerfs sensitifs au niveau de l'organisme. Sur une partie du corps, vous avez ces espèces de petits boutons, ces petites vésicules qui font très très mal. Ça dure une dizaine de jours et puis ça va rentrer dans l'ordre. On voit ça chez les enfants, on voit ça chez les personnes âgées essentiellement, bien évidemment chez les sujets qui ont de la chimiothérapie ou d'autres produits pour des cancers ou des maladies graves. Et de temps en temps, on peut le voir chez des sujets, on peut le entendre fréquemment chez des sujets infectés par le VIH. Vous voyez là, c'est un zona au niveau de la face, hein, au niveau de cervical C2. C1. Et ça donne ce type de lésion qui peut laisser des cicatrices indélébiles. Ça fait très mal. Mais c'est également un mode de révélation fréquent, encore une fois, du VIH. Quand vous avez une personne de 18 ans qui vient voir avec ça, ou de 20 ans, systématiquement, là également, alors vous allez lui traiter son zona, certes, mais vous allez rechercher si cette personne n'a pas une infection liée au virus du VIH. Diapo suivante. La maladie dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'arrêterai après avec les images horribles. La maladie s'appelle la maladie de Kaposi. Kaposi, c'était un monsieur originaire des pays de l'Est qui avait découvert cette maladie. On sait très bien que c'est une maladie qui est liée à un virus qui s'appelle le HHV8. peu importe, c'est la même famille que les herpès virus, hein, il y a plein d'herpès virus qui sont connus, et c'est une des maladies qui a été observée, je vous ai parlé tout à l'heure, dans les années 80, hein, chez les homosexuels. C'est une maladie qu'on observe essentiellement chez les sujets homosexuels, et puis une autre forme que l'on peut observer en Afrique de l'Ouest, avec les maladies caposées endémiques, où vous avez une atteinte cartonnée de toutes les jambes essentiellement des sujets dans ces pays. C'est une maladie qui peut atteindre à la fois la peau, je vous ai donné un exemple, vous voyez là, le monsieur au bout du nez, il a un kaposi, c'est une localisation fréquente, également entre les orteils, mais vous pouvez en avoir partout sur tout l'organisme. Hein. Je vous ai pas mis les photos les plus horribles, ça donne ce type de lésion sur la peau, mais à la rigueur, s'il y a un côté dysesthétique, de cette maladie, hein, avoir ça au bout du nez, c'est pas forcément être une bonne chose, mais à la rigueur, c'est pas trop grave au bout du nez. Ce qui est plus embêtant, c'est d'avoir la même chose dans les différents organes de votre organisme. Vous pouvez avoir ça dans les poumons, vous pouvez avoir ça dans le tube digestif. Et alors là, ça peut être catastrophique. Là, je vous ai mis ces diapositives où la principale localisation du kaposi à ce niveau est sur le palais. Hein, il faut toujours regarder le palais des patients infectés par le virus, comme les orteils. Et là, vous avez un beau kaposi qui est présent au niveau de ce palais. Aujourd'hui, avec les traitements antirétroviraux que l'on a, qui luttent donc contre le VIH, ce type de lésion va disparaître. Hein. Je vous raconterai après, mais ça va faire remonter l'immunité. Et si l'immunité des patients remonte parce que vous tuez du virus, si les CD4 remontent, vous pouvez très bien guérir de ce type d'infection. Il y a dans les années 85-90, ce type de patients, on les traitait par chimiothérapie, avec des résultats plus ou moins corrects, mais ils rechutaient parce qu'on n'avait pas les traitements qui permettaient de lutter contre le virus du VIH. Diapo suivante. Une autre maladie, je vous donne des exemples, c'est la pneumocystose. Je vous ai dit que la pneumocystose, c'était un des principaux modes de révélation de l'infection par le VIH. C'est une maladie qui atteint essentiellement les poumons, avec des sujets qui, à 25-30 ans, viennent vous voir en disant « Depuis plusieurs semaines, je suis de plus en plus essoufflé pour marcher, pour dormir, pour respirer, etc. » Avec des images pulmonaires sur des radios, ça c'est des scanners. Normalement, tout ce qui est en blanc, là, vous voyez, n'a pas lieu d'être. Hein. Donc vos poumons sont complètement infectés, atteints, les gens sont très malades. On a des traitements qui marchent très bien, mais c'est un grand mode de révélation de cette maladie qui a aussi la propriété de favoriser ce qu'on appelle le rentrée d'air autour du poumon, ça s'appelle les pneumothorax. Donc les sujets sont vraiment, ça devient une urgence thérapeutique pour ce type d'infection parasitaire. On a des traitements qui marchent très bien, ça s'appelle le Bactrim pour ceux qui connaissent, c'est un antibiotique qui marche sur ce type de parasite. Diapo suivante. La tuberculose, bon, la radio n'est pas très belle. Le VIH favorise l'éclosion de la tuberculose. À la surface de la Terre, tout le monde a l'impression que la tuberculose, il n'y en a plus. Il y a juste 1,4 milliard de personnes qui sont porteuses de la bactérie de la tuberculose à la surface de la Terre, avec 10 millions de nouveaux cas chaque année et 2 millions de décès. Donc c'est encore une maladie, en dépit des traitements simples, faciles d'utilisation, pas chers que l'on a, qui tue et qui se répand à la surface de la Terre. Moi, chaque année, je vois en gros 50 à 70 tuberculoses à Paris, donc c'est encore quelque chose de fréquent. Chez les patients, on voit généralement la tuberculose chez les sujets qui sont immigrés d'un pays où il y a il y a un nombre important de tuberculose, mais on le voit également chez quelqu'un qui a le VIH. Et là également, lorsque vous avez un sujet qui a la tuberculose, vous allez rechercher systématiquement une infection par le VIH. Diapo suivante. Le VIH, ça donne aussi énormément, ou ça favorise, par l'immunosuppression, pardon, que ça entraîne, un certain nombre de lésions au niveau du cerveau. Je vous mets juste 2-3 exemples. Vous connaissez tous la toxoplasmose, non ? Hein, vous avez entendu parler de ça. On surveille la toxoplasmose chez les femmes enceintes, parce qu'il risque, lorsque vous contaminez en étant enceinte, d'avoir une transmission au niveau du bébé et d'avoir des anomalies au niveau de fœtal. Et bien, en gros, à Paris ou à Lille, 80-90% des personnes ont été contaminées dans votre tendre jeunesse par le parasite. Et ce parasite-là également a la propriété d'aller s'enfouir dans votre organisme et de s'endormir. Et puis quand vous avez 110 ans, vous mourrez, mais le parasite n'a jamais fait parler de lui. Lorsque vous avez une baisse de votre immunité, vous avez un risque non négligeable de voir ce type de parasite se réveiller. Et comme il a un tropisme particulier, c'est-à-dire un lieu où il aime bien aller s'endormir, qu'est le cerveau, et bien ce parasite risque de se réveiller et de donner des abcès cérébraux, ce qui était très fréquent, en tout cas il y a quelques années, comme mode de révélation du VIH. Une autre maladie, c'est un cancer du cerveau, ça s'appelle un lymphome. Là également, c'est induit par un virus, vous voyez, l'immunité baisse. Donc les virus qui sont enfouis en vous, ça c'est le virus de la mononucléose infectieuse, qui s'appelle l'Epstein-Barr virus, le BV, est un virus qui peut, vous faites la mononucléose, ce virus va s'endormir dans votre cerveau, et lorsque votre immunité baisse en dessous d'un certain seuil en termes de valeur de CD4, vous pouvez avoir une prolifération de cellules, et donc un espèce de cancer du cerveau qui s'appelle un lymphome, qui là se traite beaucoup plus difficilement. La page suivante. Et puis je terminerai, je crois, là-dessus, juste pour vous montrer que chez les patients VIH, on a des atteintes de tous les organes. Lorsque vous êtes gravement malade, souvent des poumons, du tube digestif, de la peau, du sang, des cancers, beaucoup de cancers, mais du cerveau. Et puis également, il y a des maladies qui se voient de moins en moins fort heureusement, qui atteignent la rétine, avec un certain nombre de patients VIH qui, dans les années 80, devenaient aveugles parce qu'on n'avait malheureusement pas de traitement suffisamment efficace pour lutter contre ces infections. Il y avait des virus ou là aussi le toxoplasme qui pouvait vous donner des atteintes à l'intérieur de la rétine et les patients devenaient aveugles. Fort heureusement, aujourd'hui, en tout cas en France, ça ne se voit beaucoup plus rarement ou quasiment plus. Diapositive suivante. Aujourd'hui, surtout comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, depuis 1996, on a eu accès à un certain nombre de molécules différentes pour traiter les patients infectés par le VIH. Ces différentes molécules ont permis radicalement de modifier la prise en charge des patients, mais également de modifier leur survie. Vous avez vu qu'il n'y a que 400 personnes qui décèdent chaque année en étant infectées par le VIH. Il y a 20 ans, c'était tout le monde mourait du VIH quasiment, avant l'apparition de ces molécules. Ces molécules, elles ont pour objectif donc de tuer le virus. C'est logique, on ne va pas utiliser autre chose. Et si vous tuez le virus, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le contraire, c'est-à-dire vous allez avoir vos lymphocytes CD4 qui vont remonter. Votre immunité, les petites cellules qui sont la cible des virus, vont remonter et donc vous allez pouvoir vivre normalement sans avoir toutes ces infections dont je vous ai montré les photos. C'est toujours mieux. Diapo suivante. Il y a eu un papier très important, peu importe où, mais enfin dans New England en 95, qui a largement démontré que l'introduction de ce qu'on appelle les trithérapies, donc de trois molécules chez les patients qui étaient infectés par le VIH, s'associait non seulement à une nette diminution de la mort, ce qui était fondamental, et ça de façon parallèle à l'augmentation de l'utilisation de ces molécules. Diapo suivante. Voilà, et donc si on résume schématiquement ce qui s'est passé en France entre les années 80 et aujourd'hui, sur le plan d'un point de vue historique, c'est une diapo assez intéressante en ce qui concerne l'évolution et l'historique de cette maladie. Vous voyez que, en gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a découvert le VIH, il y a eu des tests dans les années 80, 82, 83. Vous avez eu petit à petit une augmentation très importante du nombre de patients qui ont été infectés en France par le VIH, mais également qui en sont décédés. Vous voyez, là, il y avait en gros près de 7000 personnes par an avaient ce qu'on appelle le SIDA, c'est-à-dire une des maladies dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les années 94, juste avant que l'on découvre ces différents médicaments qui permettaient aux patients de les traiter, de tuer leur virus, en tout cas d'empêcher leur virus de se multiplier, et bien évidemment de les suivre par la suite. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'utilisation, depuis qu'on a utilisé ces associations de molécules, vous avez une nette cassure du nombre de personnes qui font ce qu'on appelle le sida, donc des pathologies décrites sur les diapos précédents. Une autre diapo intéressante, vous voyez, c'est l'introduction des traitements dans les années 95. Ben là également, vous avez certes une diminution du nombre de sida, mais vous avez vu la courbe de décès des patients, elle est en violette. On a complètement cassé la courbe de décès. Hein. Avant, il y avait, c'était pour 1000 personnes infectées année, vous aviez en gros un dixième de celles-ci qui mouraient. Aujourd'hui, c'est quasiment plus rien, fort heureusement. La photo suivante. À l'époque, dans les années 80-90, je vous ai mis un certain nombre de maladies qui favorisaient le décès de ces patients. C'est toutes les maladies comme la pneumocystose, comme la tuberculose, comme les lymphomes, comme ce que je vous ai montré sur ces diapositives horribles. Aujourd'hui, les personnes qui meurent réellement du sida, c'est-à-dire d'une de ces pathologies dont je vous ai parlé, c'est relativement rare et ça survient essentiellement chez des sujets qui ne se savent pas infectés par le VIH. Hein, ce sont des personnes qui arrivent à l'hôpital. Moi, j'en ai pas mal encore, enfin 2-3 chaque année. C'est rien par rapport aux 2-3 que j'avais par jour il y a 20 ans. Là, c'est 2-3 par an. Qui arrivent en découvrant l'infection VIH et qui vont mourir parce qu'ils sont à un tel stade avancé de la maladie que malheureusement, il est un peu tard pour essayer de les traiter. Même si beaucoup de choses sont faites, même s'il y a eu des progrès au niveau de la réanimation pour ces patients, même si on leur donne un traitement pour lutter contre le virus très rapidement, on a malheureusement des décès. Et vous voyez qu'une des grandes causes de décès aujourd'hui des patients infectés par le VIH, comme ils sont bien traités, bien suivis, toute personne vieillit. Et toute personne vieillissant a plus de risques de faire un cancer. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de cancers qui sont décrits chez des patients infectés par le VIH, cancers que l'on ne voyait pas il y a 20 ans, puisque l'espérance de vie était beaucoup plus courte, beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vivre avec le VIH, c'est vivre normalement, avec, grosso modo, une survie, lorsque l'on découvre votre infection VIH, identique à une personne qui n'est pas infectée par ce virus. Dès lors que vous prenez régulièrement et correctement votre traitement contre le virus. C'est la suivante. On va passer ça, c'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est juste pour. Le traitement du VIH s'appelle le traitement antirétroviral, donc pour lutter contre l'infection par le virus. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, l'objectif d'un traitement, c'est certes d'empêcher le virus de se multiplier. Les molécules que l'on a aujourd'hui ne tuent pas le virus. Elles le bloquent simplement sa réplication. Donc, ils ne peuvent pas se reproduire. Hein, et donc, en empêchant cette réplication du virus, le virus petit à petit va diminuer dans l'organisme. On ne tue pas les virus. Donc, dès lors qu'on arrête le traitement, bien sûr, la quantité de virus dans le sang va remonter très rapidement. Le deuxième objectif, si vous tuez ce virus, comme je vous l'ai dit, c'est de refaire remonter rapidement les cellules que ce virus détruit, donc les lymphocytes CD4. Ça, il faut que ça remonte assez rapidement. Et il y a une chose fondamentale à laquelle moi je m'attache énormément, c'est la qualité de vie des patients. Comme je vous l'ai dit, il y a une trentaine de molécules qui existent aujourd'hui pour lutter contre ce virus. Si on vous donne 30 comprimés par jour, ça n'a aucun intérêt. Donc la qualité de vie doit être prise en compte, c'est-à-dire essayer de limiter le nombre de comprimés. C'est pas toujours très simple pour des raisons dont je vous épargnerai. Il faut essayer bien sûr de favoriser ces traitements en fonction du type de travail des gens. Si les gens voyagent sans cesse à la surface de la Terre, il faut calculer les décalages horaires. Il faut bien évidemment essayer d'utiliser un traitement si ces personnes sont infectées avec l'hépatite B en même temps, qui sera efficace sur les deux, très clairement. Diapositive suivante. Et juste pour terminer sur ce topo, juste pour vous montrer simplement, vous voyez, je vous ai mis un résumé des molécules que l'on peut utiliser actuellement. Alors je crois que vous m'avez demandé, vous devez les apprendre par cœur, c'est ça ? Hein, c'est ça ? Avec les doses, donc il y a un certain nombre de molécules qui marchent très bien, qui agissent en différents endroits du cycle de réplication du virus. Je vous ai épargné la diapo avant et on va pas s'étendre là-dessus. Mais en jonglant un peu sur ces molécules, on arrive très bien à bloquer la réplication du virus. Et encore une fois, grâce à ces molécules, et ça c'était surtout les inhibiteurs de protéases qui sont apparus dans les années 95, on a réussi aujourd'hui à permettre à toute personne infectée par le virus du sida de vivre encore une fois normalement comme une personne qui aurait une pathologie chronique X ou Y. Cela dit, et pour terminer là-dessus, on a des traitements qui marchent très bien. Ce n'est pas une raison non plus pour aller s'infecter. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui raisonnent aujourd'hui en disant « c'est pas grave, si je m'infecte, Ce pas j'en ai infecté volontairement, enfin, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. C'est pas grave, si je m'infecte, j'aurai le traitement. Encore une fois, avoir un traitement ad vitam aeternam, on peut toujours s'en passer. Pour ceux qui prennent un traitement ici tous les jours, par moment, c'est un peu pénible. Il ne faut pas l'oublier, il peut y avoir des effets indésirables, des effets secondaires, qui ne sont pas forcément toujours très bien tolérés. Donc, essayez surtout de ne pas s'infecter, ça c'est le mot d'ordre indispensable. Donc pour toute personne ici, j'espère qu'il n'y a pas d'hémophiles et des transfusions, ça ne s'en met plus. Il y a une protection à avoir sur le plan de la transmission sexuelle, quel que soit le mode de transmission sexuelle du virus, avec toujours la mise en place de préservatifs. Ça, c'est fondamental. Le préservatif, aujourd'hui, c'est ce qui permet à toute personne de ne pas s'infecter, quel que soit le mode de transmission sexuelle. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Ça va venir.